I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour tout le monde, je le sens. Vos oreilles sont bien lubrifiées pour laisser passer 45 minutes de sensualité. Vos membranes vont claquer de plaisir. Attention, crac crac. Non, ça n'est pas le bruit de vos tympans qui se percent et qui pissent de désir. Non, c'est le nom de cette émission qui fait bander les bad girls, les mouiller les bandits. Et pour m'accompagner dans cette aventure lubrique, ma co-animatrice Renée Grosard. Bonjour Renée, ça va ?
Ça va ?
T'es sûr ?
Ouais,
tu veux un petit test PCR ?
Non, c'est bon, non, merci.
Mais écoute, je suis vraiment heureux et honoré de présenter ce podcast avec toi. Renée, ça va ? Pas trop la ch'trouille ?
Waouh, tes jeux de mots m'épatitent vraiment.
Merci René. Il est là également avec nous. Il revient tous les mois comme l'herpès. C'est Maxime Donzel. Salut Maxime.
Salut. Et comme l'herpès, je fais aussi un peu mal.
Ah, monsieur est généreux. Vous l'aurez compris, nous allons parler d'un thème très important, la santé. Alors je me dis, bon là, vous êtes bien installés chez vous à nous écouter. Vous vous dites, ah tiens, je vais écouter un podcast pour penser à autre chose qu'à mes problèmes de santé. Eh ben non, pas de chance. Non, cette émission est placée sous le signe des MST. Mérite, santé, travail. Mais pas que. L'an dernier, on avait parlé de santé sexuelle, mais cette année, on va aussi se demander si le sexe en lui-même peut contribuer à la santé et au bien-être. Le sexe est-il en lui-même un médicament ? Et si oui, par quelle voie il se prend ? Est-ce que tu veux une Doliprane dans ton ibuprofente ? Est-ce vrai que le rédac chef de cette émission s'est pété le frein 3 fois ? Et au niveau de la sécu, est-ce que c'est cul de Ken Inkiné ? Bon, c'est plus crac crac, c'est slam slam. Alors depuis tout à l'heure, je parle de santé, mais attention à ne pas confondre avec, par exemple, quand des bons amis qui se retrouvent à l'heure de l'apéro avec le bruit des cigales et qui trinquent sur le zinc et que Jeannot crie à tue-tête « Santé !» Non, c'est pas ça. À ne pas confondre non plus avec ce moment classique hein, quand deux lords écossais se retrouvent dans un château pour le goûter entouré de boiseries magnifiques, de toiles de maître, de fauteuils en cuir et que l'un dit à l'autre ah, « Lord Cunningham, vous le voulez comment votre thé au sperme ?» Santé. Non, pas non plus comme ça. Et à ne pas confondre non plus avec hey, « Hé, Poulpe, tu la termines quand ton intro relou ?» Connard. Eh bien non, connard, ça s'écrit santé. Et bim, je suis le Eminem du cul, le gendarme son de la zigoune. Bref, le Montesquieu de la bonne grosse c***.
Salut tout le monde et merci Poulpe pour cette intro qui est passée nickel comme un suppôt.
Ah, merci.
Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de santé et ça m'a tout de suite fait penser à une amie géniale qui dit souvent quand elle va dans des teufs sex positives, un peu schlag, et ouais, ça existe, je cite, « C'était tellement crade que j'ai chopé des chlamydia par les yeux !» Je voudrais lui dédier cette émission et lui dire une bonne fois pour toutes. Fait que non, les chlamydia, ça ne s'attrape pas par les yeux, mais par les organes génitaux. Ni les gonocoques d'ailleurs, ni l'herpès, ni les morpions, et ni non plus mes préférés, les condylomes acuminés. Qui ont un petit surnom mignon, les crêtes de coq, parce que ce sont des verrues qui font comme des crêtes de coq aux pires endroits possibles. Et ouais, c'est l'un des grands paradoxes passionnants du sexe. Dans ce moment où l'on cherche tous et toutes du plaisir, il faut au contraire aussi contrôler nos corps pour qu'ils ne tombent pas malades et pour qu'ils ne nous fassent pas des bébés alors qu'on n'en a pas envie. C'est un peu relou ce paradoxe, mais on doit tous faire avec. Enfin tous... LOL, plutôt toutes, car devinez quoi ? Comme si la charge mentale et la charge domestique n'étaient pas suffisantes, et ben les femmes se retrouvent aussi à porter la charge de la santé sexuelle. Dans la grande enquête sur la sexualité des sociologues Michel Bozon et Nathalie Bajos publiée en 2007, on pouvait ainsi lire cette phrase un chouïa énervante : les hommes déclarent 4 fois plus souvent que les femmes ne pas avoir prévenu leur partenaire principal au moment où ils ont découvert qu'ils avaient une IST. C'est pas bien. Si ces hommes se comportent ainsi, c'est, analyser les sociologues, encore et toujours pour préserver leur sainte virilité et ne pas se montrer fragile. Mais enfin, c'est triste pour tout le monde à la fin cette histoire de patriarcat. À leur décharge, les pouvoirs publics ont eux-mêmes tendance dans leur campagne à cibler plus les femmes et les hommes homosexuels que les hommes hétéros. Car oui, la santé sexuelle est aussi un lieu de sexisme et d'homophobie. Comment faire pour que ça change ? Comment faire pour que la santé sexuelle soit une tâche joyeuse et bien partagée ? Comment choisir les plus beaux parapluies contre les intempéries du sexe ? C'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui avec Diane Zinriquier, qui est la créatrice de Sexy Souci. Bonjour Diane ! Bonjour René. Bonjour Poulpe.
Bonjour,
bonjour tout le monde.
Et avec Alain Héril. Bonjour Alain.
Bonjour Poulpe, bonjour René.
Bonjour.
Alain, psychanalyste et sexothérapeute. On aura aussi Maxime Donzel, un reportage, le répondeur de l'émission et notre grand quiz final. Allez, on y va, je mets mes gants, penchez-vous et toussez. Alors Diane Saint-Réquier, tu fais de la prévention, de l'éducation sexuelle, tu es très présente sur les réseaux sociaux. Comment t'en es arrivée à t'intéresser aux questions de santé sexuelle ?
Je m'y suis intéressée en devenant bénévole chez Solidarité Sida à l'époque, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. J'avais du temps un peu, j'avais envie de mobiliser dans une asso et donc je suis tombée sur cette asso qui recrutait en disant genre « Hey, t'aimes parler de drogue et de sexe ? Viens !» Et j'étais là, « Je peux faire ça !» Et du coup, j'ai été formée chez eux sur toutes les questions d'IST, de contraception. Mais déjà là-bas, chez Solidarité Sida, il y avait une approche de la santé sexuelle qui incluait aussi les questions de plaisir, de désir, de genre, de rapport au corps, les questions de consentement, les questions LGBT, enfin voilà, vraiment plein de choses comme ça. J'ai eu encore d'autres formations, donc maintenant je commence à être un peu costaud.
Et donc t'animes depuis 5 ans donc, le programme de prévention Sexy Souci. Comment il est né ce projet en fait ?
Sexy Souci, c'est né parce que donc du coup ça a commencé à faire un petit moment déjà que j'étais chez Solidarité Sida et en gros mes potes m'avaient identifié, ils avaient cerné à peu près que j'étais en train d'apprendre des trucs qui pouvaient éventuellement leur servir. Et se tourner vers moi dès qu'ils avaient une galère. Écoute, allô, la capote a craqué. Bon, typiquement ça, quoi. Mais pas que ça. Ça pouvait être d'autres trucs aussi, un peu plus genre relationnels et des trucs comme ça. Et je me dis, mais c'est marrant. C'était tous des gens un peu... pas forcément des geeks, quoi, mais des gens qui savent se servir d'Internet, qui, quand ils ont une question, ont quand même assez de ressources et tout, quoi, de capacité à chercher ces infos. Et je me dis, mais pourquoi ils se tournent tous vers moi, quoi ? Il y a des trucs qui existent, quoi. Et en fait, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qui manquerait ? Et ce qui existait à l'époque, mais après, ça a énormément changé depuis, parce qu'il y a plein de youtubeuses, de comptes Instagram, il y a plein de choses en ressources sexo qualitatives qui se sont lancées depuis. Mais à l'époque, il y avait quoi, en fait, sur ces questions-là ? Il y avait, genre, on va dire, sur la partie strictement mécanique, il y avait Doctissimo, avec des réponses un peu au petit bonheur la chance entre... quelque chose d'exact et quelqu'un qui va dire écoute t'as un cancer de la bite, tranche-la tout de suite quoi. Ça c'était un vrai problème.
Il y a très peu d'avis professionnels sur Doctissimo.
J'ai l'impression que ça a un petit peu changé, qu'ils ont un petit peu musclé leur équipe de modération avec des médecins justement qui peuvent dire attendez, ne coupez pas cet organe tout de suite.
Ils viennent de fermer le forum sexo.
Ah ouais, d'accord.
Sur Doctissimo.
Ah, je savais pas.
Ouais.
Mais en quoi c'est important de parler aux jeunes aujourd'hui de prévention et de réduction des risques alors qu'on est en 2020?
Bah, aux jeunes et aux moins jeunes, hein, parce que c'est vrai que dans l'histoire de santé sexuelle, d'éducation sexuelle, je pense que c'est parce qu'il y a le terme éducation et qu'on relie vachement ça à l'enfance ou l'adolescence, surtout l'adolescence, l'âge où on a les hormones en folie, tout ça. Mais en vrai, je pense que c'est des sujets qui peuvent concerner tout le monde à chacun des âges, tu vois, des questions comme genre... que faire si je froute pendant le sexe ? J'en sais rien. Mais pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, juste, il y a encore des lacunes immenses, quoi. Normalement, la loi, elle prévoit qu'on ait 2 heures d'éducation à la sexualité par an dans la scolarité à partir de la primaire jusqu'à la terminale. On est d'accord que personne n'a jamais eu ça. Bon, même nous, si on est vieux, je vous assure qu'aujourd'hui, les gens qui ont 15 piges, ils n'ont jamais de la vie eu ça, quoi. Et le souci, c'est que du coup, en fait, on se centre vachement sur ce qui nous semble le plus urgent. Donc, se dire, bon, on va éviter qu'ils chopent le VIH et on va éviter qu'ils se retrouvent avec des grossesses qu'ils ne sont pas en capacité de gérer éventuellement, tu vois. Sauf que du coup, on parle de rien d'autre.
De rien d'autre, ouais.
Et c'est complètement déconnecté parce que si tu n'as pas de chance et que la personne qui vient de faire ton speech cette fois-ci sur la capote, le machin, toi, tu n'as pas encore eu de rapport sexuel. Voire, tu es gouine et tu ne comptes pas avoir de rapport sexuel avec une personne avec un pénis. Cette personne-là, tout ce qu'elle a dit là, ça ne te sert à rien du tout, en fait.
Diane, merci.
Dans ton émission Sexy Souci, quelles sont les questions qui te sont le plus posées justement ?
Alors il y a un peu tout. Tout à l'heure je parlais de fruit parce que c'est un sujet qu'on a fait il y a pas si longtemps.
Puis le mot est bien.
Et on aime
ce mot. J'aime bien ce mot moi aussi. Mais en fait ça va de trucs qui peuvent paraître un petit peu légers ou drôles à des trucs qui sont franchement plus sérieux, comme des questions autour de comment on gère de se sentir mieux dans son corps, dans sa sexualité après un viol, comment on s'épanouit sexuellement quand on est en situation de handicap. Et après, t'as des questions genre en mode comment on gère un fruit, voilà. Mais sinon, sur le truc qui m'a marqué, en tout cas même avant que ça devienne une émission et tout, que c'était juste un site où je répondais aux questions des gens, c'était le truc qui revenait le plus souvent, c'était est-ce que je suis normale ? Est-ce que mon corps il est normal ? Est-ce que ma façon de fonctionner elle est normale ? Est-ce que mes fantasmes ils sont normaux ? Est-ce que je suis normale ? C'était vraiment hyper hyper présent quoi.
C'est un peu bouleversant, je trouve.
Ouais.
Ça, c'est ce qui t'émeut, mais est-ce qu'il y a des choses qui te font rire aussi ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'agacent ? C'est quoi tes réactions ? Enfin, tu peux nous raconter un peu ce qui te...
Ben, ça dépend, mais en tout cas, l'avantage d'avoir... Après, sur les stands, voilà, quand je suis en direct avec les gens, j'enfile ma plus grande diplomatie, et voilà. Mais l'avantage, quand je réponds à des questions derrière un écran, c'est que j'ai le temps de faire « Oh là là, non, c'est pas vrai !» Des fois, tu vois, quand il y a des gens qui m'envoient une question, genre Jean-Michel m'envoie une question, genre « Comment convaincre ma femme d'accepter la sodomie ?» Et là, par exemple, ça, c'est une belle surprise que j'ai eue il y a pas longtemps, parce que j'ai eu cette question qui est quand même pas si originale, parce que je l'ai eue quand même un certain nombre de fois. Donc Jean-Michel, qui s'appelait pas Jean-Michel, mais me demande comment convaincre ma femme pour la sodomie, parce que vraiment, j'ai très envie, mais j'arrive pas à la convaincre. Et où je lui ai répondu un peu en substance, en mettant un peu des gants, mais pas trop. Écoute, commence par explorer ton propre plaisir anal et surtout, fous la paix à ta femme. Et alors là, franchement, bonne surprise, le mec m'a répondu « Ah ouais, est-ce que je devrais essayer tout seul ? Est-ce que t'as des conseils ?» J'étais là « Oh my God, there is hope !»
C'est une réponse qui va rester dans les annales.
Alain Héril, le sniper. Qu'est-ce qu'il y a comme tabou, comme sujet où tu sens que les gens ont encore du mal à en parler ?
Dans les trucs tabous, je pense que voilà, il y a les questions qui sont liées aux identités de genre, aux pratiques qui sont différentes aussi. J'ai déjà eu des questions, par exemple, de personnes jeunes qui commençaient, quand je dis jeunes, c'est genre ados, on va dire, et qui commençaient à sentir, par exemple, qu'elles avaient des attirances qui étaient peu conventionnelles. Et je te parle pas juste d'être queer ou LGBT, d'accord ? Genre, j'ai 15 ans et je commence à me dire que, j'ai une attirance ou un truc particulier avec les pieds ou avec tel truc, tu vois. Et là...
Oui, c'est les débuts de fétichisme et...
Carrément. Donc, en fait, tous les trucs qui, encore aujourd'hui, on va dire, sont considérés par la société à large comme déviants de, justement, cette norme, ils continuent à être tabous, ça continue d'être compliqué d'en parler, tout simplement, parce qu'en fait, tu sais pas comment va réagir la personne en face. J'ai l'impression aussi que, par exemple, dire... moi j'ai pas plus que ça envie de baiser, ou moi j'ai pas d'orgasme à chaque fois, mais je m'en fous en fait, tu vois. Ça, c'est peut-être aussi des trucs qui sont compliqués, notamment par exemple pour des meufs féministes et tout, chez qui il y a une ah, t'es féministe, bah vas-y, branle-toi le clito, quoi, tu vois, genre injonction à la libération via la sexualité.
Et du coup, comment tu fais pour inclure tous les types de sexualité dans ton discours ? Comment tu fais pour que tout le monde se sente bien à la maison ?
Ben, j'essaye de faire plusieurs choses que je pense qui sont assez faciles, entre guillemets, même si c'est un petit exercice sur la mise en œuvre, mais qui sont la première, c'est de pas supposer des choses, en fait, donc pas supposer des choses sur le genre, les pratiques, les préférences des personnes, à part ce qu'elles me disent. Quand je suis en train de parler de santé au sens strict, IST et compagnie mécanique, je vais parler de personnes à vulve, de personnes qui ont un pénis, parce qu'en fait, c'est clair. Enfin, je veux dire, je suis pas en train d'utiliser des mots mystiques. Je dis une personne qui a une vulve, c'est ce que c'est, quoi. Et à la fois, ça permet de pas être dans un discours qui soit uniquement, qui s'adresse uniquement aux personnes cisgenres. C'est un petit exercice de langage comme ça. Ton ou ta partenaire. Bon, bref, c'est des petites bêtises comme ça, hein. Mais de le faire systématiquement.
Du coup, comme je disais dans l'introduction, les campagnes de prévention ont tendance à cibler plus les hommes gays et les femmes. C'est montré des travaux sociologiques, j'invente rien. Qui donc on pourrait cibler plus, à ton avis, comme autre type de population ?
Bah oui, c'est sûr que ce serait intéressant de cibler les mecs hétéros aussi, ne serait-ce que pour cette idée de la charge dans les rapports hétéros, parce que déjà la charge contraceptive, bon, à immense majorité, c'est les meufs qui la portent, et financièrement, et en temps, et en impact sur leur corps, quoi. Mais la charge de la protection, en fait, vis-à-vis des IST aussi, en fait. Parce que, évidemment, hashtag not all men, mais elles sont plus souvent à se dire « Ah ok, si je veux qu'en tout cas il y ait une protection pendant ce rapport, c'est moi qui vais devoir ramener les capotes, parce que sinon je vais me retrouver face à un mec qui me dit « Bah, on n'en a pas, mais ce serait trop dommage quand même, on est là, je bande, tu vois, on y va quoi ». Aujourd'hui, qui parle de santé sexuelle ? Tout à l'heure, je parlais des comptes sur YouTube, sur Instagram, etc. Il y a des mecs, mais il y en a peu.
Il y en a très peu
qui s'emparent du truc.
Les mecs hétéros, surtout, il y en a très peu. Ouais.
Même gays, il n'y en a pas tant, mais effectivement, des mecs hétéros,
Ouais, très très peu de mecs hétéros qui animent des émissions sur la sexualité. Ouais.
Tu viens de not all mené là.
Je suis d'accord. Tu as commencé il y a 5 ans ton projet Sexy Souci. Est-ce que tu vois une évolution sur les questions de santé sexuelle depuis 5 ans?
Il se passe quand même des choses quoi. Depuis 5 ans, j'ai l'impression qu'en tout cas, si on parle de santé sexuelle comme genre... pas que les IST, mais aussi les questions autour du corps, les questions autour du consentement, etc. Depuis 5 ans, il se passe des trucs de fou un peu, quoi. Voilà, moi, je vois passer genre les lycéennes qui se mobilisent autour de leur hashtag et tout ça, qui sont là. Génial. Vous voulez nous censurer, mais très bien, mais nous, demain, on est tout en crop top, en fait, et vous allez rien faire. Et voilà, moi, je trouve ça... J'ai l'impression qu'il y a quand même il y a de la mobilisation, il y a de la conscientisation. Après, ça, c'est mon côté optimiste. Hein.
Et toi Alain, du coup t'es sexothérapeute, pas sextothérapeute, c'est un peu chelou en fait comme activité.
Mais j'ai imaginé le métier, c'est pas mal.
J'en ai besoin
sextothérapeute.
On peut faire une école. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de toute cette nouvelle génération qui parle de sexualité comme ça, sur les réseaux sociaux?
Moi évidemment je trouve ça extrêmement intéressant, et puis moi je reste très optimiste aussi sur la manière dont la sexualité peut évoluer, surtout dont on sort du terrain binaire, dont on peut rentrer effectivement dans une sexualité qui est décloisonnée. Moi, ce qui m'intéresse dans la sexualité depuis le temps que je travaille autour de ça, c'est-à-dire depuis que je suis né, c'est vraiment la question du désir, quoi. Comment s'organise le désir, tu vois, de pas être simplement au niveau mécanique, au niveau du truc qui rentre dans le machin et tout ça, mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'on ait des êtres de désir et qu'on ait des êtres de désir finalement sans limite? Et comment les injonctions sociétales nous mettent dans des cases, dans des limites autour de la normalité. Et je trouve que ça, ce discours-là est en train de s'ouvrir et de se décomplexer. Moi, je l'entends. Et en même temps, c'est l'autre versant. Il y a des questions qui, moi, m'étonnent toujours par rapport au sexe et chez des personnes adultes qui, normalement, devraient être informées, quoi, et beaucoup sur l'anatomie aussi. Hein.
Est-ce que le public de Diane, est-ce que tu le vois toi aussi dans ton travail? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent?
Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai remplacé le doc à Fun Radio pendant 2 ans.
D'accord.
Donc du coup j'étais en contact avec ce public-là, même si c'est il y a une bonne dizaine d'années, et j'ai commencé à voir l'essor de ça, de questions qui étaient des questions sur l'intimité, sur le rapport à l'autre, sur le rapport à soi, et qui étaient des questions très très ouvertes et je dirais presque très émouvantes aussi. C'est-à-dire tout d'un coup il y a quelque chose qui était en train d'émerger. Maintenant, je consulte plus, je forme surtout des thérapeutes et j'essaye de faire en sorte de les former à avoir un regard sur la sexualité qui soit ouvert et qui soit pas hétéronormatif, comme c'est dans beaucoup de cours de sexologie à la fac, quoi. Et ça, c'est terrible, quoi.
C'est dingue. Ça continue, quoi.
Ça continue, ouais.
Diane, sache que tu n'es pas la seule à scruter les soucis sexuels des gens. Regarde, juste à côté de toi, il est là avec sa petite blouse et sa sonde, tel un proctologue du web. Il sonde les reins et les anus des internautes et nous en ramène l'essence. C'est Maxime Donzel avec SOS Plaisir.
Oui, Poulpe, Diane le rappelait tout à l'heure, hein, si tu as un bobo au Kiko, le premier truc à faire, c'est d'aller regarder sur Doctissimo. Ou c'était l'inverse que... Non, c'est l'inverse que tu disais. En tout cas, c'est clair que les internautes se tournent beaucoup vers les forums pour parler de leurs problèmes de ZZ, et parfois sans réponse. Alors on a essayé d'y répondre, nous, avec ce message par exemple de Seb_43. Bonsoir, j'ai 18 ans, j'ai remarqué depuis une semaine des problèmes au niveau de mes testicules. Le premier souci, c'est que mes slips sont toujours humides au niveau des testicules. Est-ce que ça veut dire que mes testicules transpirent? Deuxième souci, j'ai remarqué que mes testicules pendent beaucoup. Avant, elles se contractaient un peu, mais maintenant, elles pendent en permanence. Est-ce normal? Le fameux normal. Alors, bonjour Seb_43. Alors, je pense que je comprends le problème. C'est pas que vos testicules transpirent de peur ou quoi. Je pense que vous avez des testicules très pendantes qui tombent tellement bas que parfois, elles touchent l'eau des toilettes. Quand vous êtes sur le trône, du coup, elles sont mouillées.
Alors après... Max, je crois que tu racontes n'importe quoi là, non?
Non, c'est un vrai truc. Il y a des toilettes qui ont le niveau de l'eau hyper haut et parfois les couilles de certaines personnes que peut-être parfois on connaît peuvent toucher l'eau. Ça arrive à des vrais gens. Bon, bref, en tout cas, sinon il y a quand même une autre vraie solution au problème, dit des testicules humides, c'est le talc. Oui, c'est tout simple, ça soulage. Si vous n'avez pas de talc, je recommande de la farine, hein, farine de froment, sarrasin. Mais attention, surtout pas de sucre glace, hein, sinon ça risque de... caraméliser les couilles, voilà.
Merci Max, un autre message.
On passe au deuxième message, celui de Lilibulle. Bonjour, voilà, j'ai un problème avec mon mec, il adore la sodomie, mais quand il la retire de mon anus, je peux pas m'empêcher de lui faire dessus. C'est comme si mes sphincters se relâchaient et que tout partait tout seul. C'est vraiment chiant parce que ça joue vraiment sur notre couple et j'ai peur de le perdre. Merci pour toute réponse. Alors, si votre copain aime la sodomie, faut qu'il s'habitue, hein. Ça fait quand même un peu partie du truc. Donc, s'il a du mal, moi, ce que je vous suggère, j'ai une idée. Vous pourriez l'habituer en mettant un peu de matière fécale partout dans l'appartement.
Ah,
sur
oui.
Comme ça, il serait habitué à l'odeur. Au bout d'un moment, il ne s'en rendra plus compte. Sur son oreiller, sur son assiette, sur ses chaussettes.
Mais c'était ça, du coup, l'odeur chez toi, là, cette odeur.
Ça, c'est autre chose, en fait. Sinon, pour répondre vraiment à Lilibulle, moi, je recommande tout simplement, pareil, Diane en a parlé, un lavement. Voilà, avec une poire à lavement, c'est pas cher, c'est pas compliqué et pas si désagréable, si je peux me permettre. D'ailleurs, je suis actuellement en train d'en faire un pour préparer ma soirée tout à l'heure.
Et c'est donc pour ça qu'il y a un seau sous la chaise de Maxime. Merci, Maxime. Attendez, mais qu'est-ce que j'entends ? Couis-je ? Ne serait-ce pas le son terrible des notes de frais qui s'accumulent sur le bureau du comptable de mon entreprise ? Eh oui, c'est le moment du reportage de René.
Alors voilà, je suis dans le hall d'immeuble de Sylvain Mimoun, qui est gynécologue et andrologue, et avec lui, on va parler de Viagra féminin. Il va nous expliquer en quoi le Viagra féminin est quelque chose d'intéressant pour les femmes, et puis aussi ce que ça va me faire quand j'en prendrai, puisqu'on a eu cette idée complètement idiote de me faire prendre du Viagra féminin. Allez, on y va. Bonjour Sylvain.
Bonjour, bonjour.
Alors, donc en fait, on va faire ce reportage sur le Viagra féminin. Oui. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le Viagra féminin ?
Alors, le Viagra féminin n'est pas un Viagra, puisque le Viagra, c'est un composé à base de médicaments pour faciliter la circulation du sang dans la verge de l'homme et pour avoir une érection. Les afférences qu'il peut y avoir entre le nouveau produit dont je vais parler et le Viagra féminin, c'est plutôt que les deux ont comme objectif d'augmenter le désir sexuel féminin. Si on a une béquille qui est représentée par le médicament, on apprend mieux à remarcher. Là, c'est plutôt un soutien général de l'excitation féminine, en fait, plus que de désir. Et à partir de là, donc, la femme prend un comprimé deux fois par jour et un certain temps, quoi. Ça dépend du contexte.
Alors, on fait ce reportage dans le cadre d'une émission sur la santé sexuelle. Est-ce que vous le comprenez ? Est-ce que pour vous, ça fait partie de la santé sexuelle que d'avoir des rapports sexuels ?
Oui, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on réussit à faire l'amour, on se sent plus jeune, dans la tête d'abord et dans le corps ensuite.
Alors, j'ai mon sac à main et dans mon sac à main, j'ai la boîte que vous m'avez recommandé d'acheter. Je voulais qu'on la regarde ensemble. Alors, ça s'appelle Libicare. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce produit ?
Sur le plan de l'efficacité de la chose, c'est que le fait que la femme prenne ça de manière régulière, elle se sent moralement soutenue dans son désir d'avoir du désir. Et du coup, si elle fait l'amour, elle va être encore plus sensibilisée à est-ce que je ressens quelque chose ou non. Vous n'allez pas du jour au lendemain ou dès que vous avez la comprimée, vouloir sauter sur tout ce qui bouge. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Mais par contre, si vous vous mettez en situation de faire l'amour, vous serez plus disponible et physiquement et psychologiquement pour que les choses se passent bien.
Alors, j'en prends un, c'est ça ?
Oui.
Ok, et donc le prochain, je le prends dans combien de temps ?
Quelques heures après, jusqu'à ce que vous sentez que vous êtes habité par tout ça.
Super, merci beaucoup Sylvain. Premier jour. Il s'est passé un truc un peu étonnant qui mérite d'être remarqué, puisque j'ai travaillé sur un article sur la contraception masculine, au cours duquel j'ai vu des pénis flasques d'hommes. Alors normalement, j'en ai strictement rien à carrer, mais là, j'ai ressenti un petit coup de chaud. Voilà. Troisième jour. Je suis arrivée chez mon mec, donc on s'est retrouvés sur le quai de la gare, et quand on s'est embrassés, il s'est passé un truc. Ça peut m'arriver, mais pas aussi fort. Mais en fait, là, j'ai un peu l'impression de chercher les effets de ce truc qui, pour l'instant, sont pas sensationnel. J'ai pas l'impression que ça fasse un grand bouleversement. Quatrième jour. Donc, j'en suis à mon septième comprimé. Je ressens pas grand-chose. Même si mon mec est en train de se déshabiller devant moi. Sixième jour. Il est 16h23 et il y a 23 minutes, j'ai pris mon 11e comprimé.
Je commence à comprendre, je crois, comment ça fonctionne. Ça fait un petit effet, mais tout petit, petit, petit. Juste après qu'on a pris le comprimé. Puis après, pas grand-chose.
11e jour.
Voilà, voilà. Bah donc, en fait, finalement, ça fait effet. Hein. Fallait bien que ça arrive à un moment donné. Et bien évidemment, je suis seule, puisque j'ai laissé mon mec dans sa ville. C'est parfait, je suis toute seule avec mon Viagra féminin. Grosse envie de sexe. Hein. Merci, crac-crac. Merci le travail. Je suis ravie.
14e jour.
Il faut que je reprenne mon souffle. Et ben voilà, c'était très utile. Merci beaucoup le Viagra féminin pour cette relation sexuelle que nous venons d'avoir et qui était très agréable. Et en fait, peut-être que ça marche finalement si l'on s'en tient à ce qui vient de se passer. Voilà, donc on vient de faire l'amour. Et moi, je vois pas trop de différence. Mais sinon, toi, t'as vu une différence. C'est ça, Clément ?
C'était différent au niveau de l'intensité, et notamment à la fin, au moment de ton orgasme. Mais là, ça m'a presque mis mal à l'aise vis-à-vis des voisins. Il m'a semblé que c'était bien plus intense de ce point de vue-là qu'au début où tu commençais à prendre les pilules.
Tu veux que je continue ou pas ?
Non, je pense qu'il faut que t'arrêtes. T'en as pas besoin du tout, toi.
Merci René pour ce reportage. René, c'est un peu un urologue qui parle, hein. Tu devrais être remboursé par la sécu.
Je sais.
Je me tourne vers notre deuxième invité, Alain Héril, pour l'instant sniper de l'émission, mais tu es aussi psychanalyste, sexothérapeute et l'auteur d'un livre sur l'orgasme thérapeutique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Attention, je n'ai pas mon bac.
Je vais quand même raconter l'histoire de l'écriture de ce livre parce que c'est très en lien avec ta question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre que je ne voulais pas écrire.
C'est raté, Alain.
Voilà, et c'est raté, ouais. C'est un éditeur qui est venu me chercher qui m'a dit... Visiblement, ça n'a jamais été abordé et tout ça. Et j'ai finalement accepté. J'ai lancé une enquête sur les réseaux sociaux et j'ai eu 600 réponses qui sont arrivées en 15 jours. C'est-à-dire que j'ai eu tous ces témoignages-là et je me suis aperçu qu'il y avait plein de personnes qui, naturellement, allaient vers la sexualité pour l'utiliser comme moyen antidouleur voilà, et de façon complètement, complètement naturelle. Alors, pour être bien clair, je suis pas en train de dire que les orgasmes soignent le cancer, bien sûr, mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant d'avoir ces témoignages-là, parce que tout d'un coup, il y a un rapport naturel entre désir, orgasme et santé qui m'est apparu, et à un niveau auquel je ne m'attendais pas.
Soupçonnais pas. Ouais. Donc le sexe peut soigner le corps humain.
Ben, le sexe peut réguler le corps humain de manière à ce que on se retrouve dans un rapport à soi-même qui soit beaucoup plus tranquille, joyeux, et par rapport à un certain nombre de problématiques et de symptômes qui vont du plus simple, si je puis dire, à certains qui sont compliqués. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de témoignages aussi par rapport à l'endométriose, qui est quand même largement sous-diagnostiquée et qui entraîne beaucoup de douleurs à la pénétration et avec des pratiques masturbatoires et qui font redescendre le taux de douleur à la pénétration.
Qu'est-ce que ça a comme impact sur la santé psychique, on va l'appeler comme ça ?
Ben, sur la santé psychique, la sexualité, alors le désir, même de façon générale, c'est une manière d'être en lien avec soi-même. Pour moi, la masturbation fait partie intégrante de la sexualité. Et donc, le lien que ça a sur la santé psychique, c'est que ça... Ben, tout simplement que la sexualité, c'est quand même un endroit où on rencontre de la joie, on rencontre du désir, du plaisir, et puis quelque chose qui n'est pas obligatoirement formaté. Je pense que ce que les gens apprennent à travers la sexualité, c'est tout simplement la liberté. La liberté d'être eux-mêmes, la liberté d'être eux-mêmes dans leur rapport au désir et au plaisir. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très important et qui va un peu à l'encontre de ben, « suis-je normal ?»«
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'il faut faire ?»« Quel est le mode d'emploi ?» Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui devient beaucoup plus libre et je dirais même beaucoup plus libertaire aussi dans la façon d'être en lien avec soi-même.
Un cas pratique, est-ce qu'on peut soigner une dépression en se branlant à donf ?
Le problème de la dépression, c'est que quand on est dépressif, on prend des antidépresseurs et les antidépresseurs calment la libido.
Annihilent la libido.
Donc du coup, ça tourne en rond. Hein. Mais l'un des moyens de sortir de la dépression et de commencer à s'en sortir, c'est le retour de la libido, c'est le retour de la circulation de la libido. Et en général, sur le terrain médical, dès qu'un dépressif commence à avoir l'orée d'un désir qui arrive et quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui-même, c'est que la dépression commence à baisser. Wow. C'est un excellent signe.
C'est beau.
De toute manière, dès que la libido circule, c'est toujours un excellent signe.
Et sans aller jusqu'à la dépression, y a les petites déprimes, par contre, ça peut aider le sexe.
Ça joue beaucoup sur le stress. Par exemple, parce que le stress peut entraîner des déprimes, des états où on n'est pas très bien avec soi-même, où on est tendu, parce qu'au-delà de la dépression, il y a tout le registre de l'anxiété, par exemple, tous ces terrains anxieux qui peuvent être largement balayés et régulés par la sexualité.
Certaines femmes se masturbent parce qu'elles ont l'endométriose ou leurs règles. Comment ça marche, en fait,
la masturbation? Lorsqu'on est en montée orgasmique, il y a plus forte raison quand on a des orgasmes, et même dans les espaces intermédiaires entre les orgasmes, il y a un certain nombre d'hormones qui sont produites par le cerveau, qu'on connaît bien, sérotonine, ocytocine, dopamine, qui sont endorphines aussi, qui sont des hormones régulatrices. Mais c'est pas que dans le cerveau, c'est-à-dire que c'est pas simplement cérébral, c'est que ces hormones, quand elles sont produites, ensuite elles vont dans le corps. Et le corps, comme ça le régule, il renvoie l'information au cerveau, ça me fait du bien et le cerveau continue. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en cycle à l'intérieur du corps. Donc c'est pas que la tête qui va bien, c'est aussi tout le corps qui va bien. Et ça joue aussi bien sur la masturbation que sur une relation sexuelle avec une, deux, trois, quatre personnes, peu importe. C'est le même mécanisme. Mais pour que ça circule, il est nécessaire qu'il y ait quand même un lâcher-prise qui se mette en place. Et bien souvent, ce qui bloque notre lâcher-prise, ce sont les injonctions. Les injonctions sociétales, celles qu'on a à l'intérieur de soi et qui laissent entendre « non, ça se fait pas, alors que j'ai envie d'y aller, ça se dit pas, ça se vit pas ». Et dès qu'on lâche ces injonctions-là, c'est à ce moment-là que ces hormones-là, elles se délivrent de manière extrêmement importante et qu'elles régulent le corps et puis le mental.
Et puis que du coup, il peut même y avoir des états de transe
L'orgasme est une transe. L'orgasme est très précisément une transe. C'est un état modifié de conscience. Mais la transe, c'est une découverte très particulière de soi-même. Et l'orgasme, oui, entraîne sur ces terrains-là. C'est plus la normalité qui joue. C'est vraiment la rencontre avec des espaces de soi-même qui sont souvent étonnants et joyeux.
Diane et Alain, vous êtes donc vraiment tous les jours confrontés au problème de sexualité. Tous les jours, j'imagine, votre messagerie est remplie de messages liés à tout ça. Est-ce que vous, ça va dans votre vie sexuelle à vous? Vous arrivez à faire la part des choses?
Tu veux répondre en premier?
Moi, ça va super bien dans ma vie sexuelle.
Non, mais c'est vrai.
Moi,
dans
franchement,
votre intimité,
je suis sortie de l'hétérosexualité, je vis ma meilleure vie.
Bravo.
C'est trop bien. Voilà.
C'est vrai qu'on peut applaudir.
Vous pouvez le faire, vous aussi, chez vous.
Moi, je dirais que ça a enrichi ma vie sexuelle.
D'accord.
Parce que quand j'ai commencé à travailler sur le terrain de la sexualité, moi, j'ai appris énormément de choses en écoutant mes patients, en lisant des bouquins, en rencontrant des gens, en essayant d'être un peu ouvert. Donc, du coup, ça a modifié ma sexualité parce que ça a mis en moi une curiosité.
Ouais.
Et je pense que la base d'une bonne sexualité, c'est quand même d'être curieux. Curieux de soi, curieux de l'autre, curieux, mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Mais pourquoi tu le fais? Et de s'apercevoir aussi qu'on a envie de le faire et qu'on a envie de le découvrir. Moi, je pars du principe qu'on a plusieurs sexualités, qu'on n'en a pas qu'une, qu'on a plusieurs, qu'on découvre tout au long de sa vie. Et peut-être qu'une sexualité épanouie, c'est de se donner la possibilité de vivre toutes ces sexualités et de les visiter. Et puis, nous sommes un musée érotique et sexuel à l'intérieur de nous, absolument extraordinaire.
Bien, je prends un ticket et je viens demain, Alain. Quand on a mal au ventre, on appelle SOS médecin. Quand on a vraiment très, très mal au ventre, on appelle les urgences. Et quand vraiment, vraiment, on veut raconter une histoire de cul bien dégueulasse, on appelle Crac Crac et on laisse un message sur notre répondeur. Et pour cette émission, je vous cache pas qu'on est sur un bouquet garni. Les gens ont été très généreux. Donc on a dû faire un gros tri, mais donc voici le meilleur du public de Crac Crac sur le répondeur.
Début de relation, je taille une pipe à mon conjoint, il me dit qu'il se sent mal. On appelle les pompiers, résultat des courses, il est hospitalisé pendant 7 jours pour une myocardite. Au bout de quelques jours, je vais lui rendre visite pour prendre des nouvelles et je lui propose gentiment de finir le travail dans les toilettes de sa chambre.
En pleine partie de sexe, en plein préliminaire, j'étais en pleine fellation avec mon mec et là, il me dit « Oh, je veux trop qu'on essaye ton plug. » Un peu étonnée, je dis « Moi, j'ai pas particulièrement envie. » C'était en fait pour lui. Donc, on reprend, tout se passe bien et puis tout se passe très très bien. Et à un moment, mon club a disparu dans les profondeurs abyssales de son anus. Donc tout s'est bien passé, il y a eu plus de peur que de mal. Mais je pense qu'il avait passé un très très bon moment.
Première sodomie, au moment où il se retire, mes fesses libèrent de l'air comme un ballon de baudruche qui se dégonfle très bruyamment. Et même en serrant les jambes, rien n'y fait, mon anus est incontrôlable et je pète pendant plus de 5 minutes, facile.
Un jour, j'étais avec un mec qui ne savait pas que les boutons de fièvre étaient de l'herpès. Du coup, il m'a fait un cunnilingus et m'a expliqué le lendemain qu'il soignait ses boutons de fièvre avec de l'huile d'olive. Bon, j'ai eu une petite frayeur.
Merci à nos auditrices pour tous ces messages généreux qui montrent que la France est un grand pays. Je crois qu'on est tous d'accord avec ça.
Vous trouvez pas qu'il fait de plus en plus chaud là sur le plateau? Non ?
Ouais.
Un peu, non ? Bah, ça tombe bien, parce qu'on a le thermomètre de cette émission. Il prend la température bien au fond de la pop culture. Et pas par le truc qu'on espère. Voici Maxime Donzel et sa rubrique Culture Beat.
Oui, bonsoir, je m'appelle Maxime et je vois des beats partout dans la pop culture. Alors pour cette spéciale sexe et santé, je me suis demandé si les films ne nous donnent pas de trop mauvais exemples. Oui, si les scènes de cul dans les films ne seraient pas un peu dangereuses pour la santé dans la vraie vie. Puisque moi, bah, comme tout le monde, hein, quand je vois un truc au cinéma, après, bah, je le fais. Hein. C'est comme ça que j'ai niqué ma porte de salle de bain après avoir vu The Shining. Super, merci. Alors, je vais essayer d'éviter à nos auditeurs quelques désagréments d'ordre sexuel. On commence avec une des plus célèbres scènes de sexe au cinéma dans Tant qu'il y aura des hommes. Un film de 1953 avec Burt Lancaster et Deborah Kerr qui s'enlacent sur le sable alors que la marée monte sur leur corps. Elle est belle, il est beau, il l'embrasse, elle s'abandonne et là elle lui fait du slut-shaming.
Oh, personne ne m'a jamais embrassé comme ça.
Pas un seul, parmi tous ceux qui t'ont tenu dans leurs bras.
Où veux-tu en venir ?
Peut-être que ce n'est pas ta première promenade sentimentale sur une plage.
Ah, les années 50, c'était une autre... c'était déjà comme maintenant, en fait. En tout cas, cette scène est devenue mythique, alors que ce qu'elle représente est potentiellement très dangereux. Le sable peut créer par frottement des lésions sur la zone génitale et favoriser les infections. Et puis, désolé de casser votre trip romantique, mais la plage, c'est immonde. Il y a des mouches de sable, porteuses de maladies. Et puis, on dit que la mer, c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans, mais la plage, c'est encore plus dégueulasse. Les oiseaux chient dessus. On trouve 100 fois plus de matière fécale sur le sable que dans l'eau. La dame, là, elle repart de là, elle est pas bien, normalement. Hein. Bon, alors, je sais que le but des films, hein, normalement, c'est de nous faire croire à l'impossible. Et il y en a qui ont même un peu poussé le bouchon. C'est, par exemple, Mr. and Mrs. Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie. L'histoire de deux tueurs à gages qui sont mariés et qui ne sont pas au courant qu'ils sont tueurs à gages. Ok, bon, c'est un peu gros. On les embauche pour s'entretuer. Ok, là, ça fait beaucoup. Et ils essayent vraiment de s'entretuer. Ouais, bon, ça commence à devenir très con. Et pourtant, le truc le moins crédible du film, c'est même pas ça. Après s'être battu dans toute la maison, après avoir pété tous les meubles, toutes les fenêtres à coups de mitraillette, ils font l'amour par terre sur un petit air d'accordéon. Mais faire l'amour par terre sur des bris de verre, ça coupe le verre. Non mais les films ne donnent vraiment pas de bons exemples. Faire l'amour en provoquant un accident de voiture comme dans Crash, pas super. S'insérer un crucifix dans le vagin en criant « Laisse Jésus te baiser » comme dans L'Exorciste, on évite, il peut y avoir des échardes. Heureusement, certains films essayent de montrer l'exemple, comme Le Loup de Wall Street. Certes, c'est une chandelle allumée qui est insérée dans l'anus de Leonardo DiCaprio, mais c'est en présence d'une professionnelle, il n'y a pas de rideau qui pourrait prendre feu, et quand elle le brûle à la cire, Leonardo se sert d'un safe word, un mot de passe qui indique qu'il veut que ça s'arrête.
Oh, tu y vas pas doucement, hein ?
Wolfie,
c'est le code pour dire stop bébé, ça me fait
j'en
trop mal.
J'en ai rien à foutre, moi, que tu es mal.
Oui, non, mais par contre, faut le respecter, hein, le safe word. Je sais que c'est tentant de torturer un mec hétéro, cis blanc et capitaliste, mais non, faut pas, nul. Enfin, je suis comme toujours allé regarder du côté du porno, et puis sans fond, hein. Donc, écoutez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une vidéo au hasard dans l'ordinateur de Monsieur Poulpe. Est-ce que vous reconnaissez ce son?
Ouh.
Ouh. C'est une femme qui boxe les couilles d'un homme. C'est très sympa. Alors franchement, je me suis renseigné pour être sûr qu'il n'y avait pas trop de risques pour la santé. Alors bon, c'est sûr que ça peut abîmer les articulations des doigts au bout d'un moment. Mais si on met de la crème, franchement, il n'y a pas de souci. A priori, vous pouvez y aller, c'est sans risque, pour une fois.
Merci Maxime. Bon, après la vidéo que t'as prise sur mon ordi, c'était pas du tout du porno, c'était pendant mon anniversaire. Bref.
Et voilà, nous arrivons au moment gaming de cette émission avec ce terrible quiz qui fait mouiller les cerveaux. Un jeu vraiment hot saucisse qu'on appelle le quiz.
Et oui, on peut réussir dans les médias et employer l'expression hot saucisse. Un beau message d'espoir pour tous les jeunes qui nous écoutent. Alors dans ce quiz, nos invités vont s'affronter en trois questions qui portent sur le thème de l'émission. Et chez vous aussi, vous pouvez jouer. Ah, je ne sais pas pourquoi je crie comme ça. Je crois que j'ai pris la voix d'Olivier Mine et on se retrouve pour le grand jeu de l'été. Envoyez vos réponses au 68-500. Alors pour jouer, Diane et Alain, je vois de la sidération dans vos yeux. Vous avez des buzzers personnalisés, je vais tout de suite les paramétrer. Je commence par Diane. Diane. Tiens, tu peux tester ton buzzer dans le micro. Ok, Alain. Alain. Tu peux le tester. Super. Donc, très simple, je vous pose 3 questions, 5 points par bonne réponse. On vient de se rendre... Ouais, je me rends compte qu'on n'a pas prévu de cadeau pour les gagnants. Pas trop d'enjeux, apparemment, sur ce quiz. Alors, attention. Vous buzzez dans les micros. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes?
Oui.
Oui. Je sens la mâchoire qui s'ouvre de plus en plus chez Diane. Elle ne comprend pas pourquoi elle est là. Attention, la première question arrive. Qu'est-ce que l'épectase? Alors, l'épectase, ça, je vous donne un indice. Chez vous aussi, vous pouvez jouer, bien entendu. Je vous donne un indice, un rapport avec la mort et le sexe.
Est-ce que c'est les pendus qui bandaient encore?
Non, non, mais c'est intéressant, tes vacances. Non, c'est pas ça. Oui, Alain?
C'est faire l'amour avec un mort?
Non, ça, c'est la nécrophilie, Alain.
Ouais.
Non, c'est pas ça. Non, vous l'avez pas? Mais... Oui.
C'est faire un paix juste avant de mourir.
Non, mais continuez.
Non,
mais
j'appelle,
moi, j'appellerais ça le chant du cygne, non?
Est-ce que c'est mourir d'orgasme?
Mais oui, oh, bravo! 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 Diane Sarriquier, 1 point. Non, 5 points, bravo. Effectivement.
Oui, mais faire un paix avant de mourir, c'est mourir d'orgasme.
Oui, c'est vrai. Ouais,
on a mauvais joueur là.
C'est en tout cas une belle fin poétique, en tout cas. Je vous donne quand même une info sur l'épectase. En 1974, le cardinal français Jean Danielou a trouvé. C'est pas une vanne, c'est vraiment son nom. Ça sent un peu la région PACA, cette histoire. Jean Danielou a trouvé la mort dans des circonstances embarrassantes pour l'Église catholique. On a trouvé son corps chez une prostituée. Il est mort, là. C'était une belle épectase.
C'était Félix Faure aussi, la pompe funeste. Le président Félix Faure qui est mort en se faisant sucer la bite.
Yes. La pompe funeste.
Ouais. C'était le surnom qu'ils ont donné à la dame qui l'accompagnait à ce moment-là.
Wow. Est-ce qu'elle a déposé le nom de domaine?
L'histoire ne le dit pas.
Ouais. Pompefuneste.org. Ok, on passe à la prochaine question, main sur le buzzer. Qu'est-ce que l'onanisme et d'où vient ce mot? Alors, j'ai entendu Alain en premier, mais c'est une bouillie dégueulasse sonore. Je crois que j'ai entendu Alain.
C'est un mot qui est utilisé pour la masturbation et ça vient de la Bible, ça vient d'Onan.
Oui.
Qui avait récupéré la femme de son frère et qui devait lui faire un enfant et qui ne pouvait pas par loyauté envers son frère et qui au moment où elle allait éjaculer sortait de sa belle-sœur pour éjaculer à l'extérieur. En fait, ça n'a rien à voir avec la masturbation, l'onanisme. C'est du coitus interruptus.
Hein, ouais.
C'est
génial.
Ouais.
Bah ouais. Effectivement, ouais. Donc il a préféré, je cite la Bible, attention, ça m'arrive rarement, laisser sa semence se perdre dans la terre. Mmh. Voilà, ça a donné des hibiscus. Alors je vous dis quand même les symptômes qu'on prêtait à l'onanisme à l'époque. Donc les cheveux et les dents qui tombent, la cirrhose du foie, le teint jaune, hémorragie et la mort subite, mon gars.
et que ça rendait sourd, hein, même ça. Enfin, moi, même quand j'étais petite, bon, je pense que personne n'y croyait, mais quand on m'a quand même déjà dit ça, genre, ouais, ou en tout cas, c'était genre le cliché, ça rend sourd, quoi. Quoi ?
Ouais. Mais il y a le truc le pire, je crois, au 19e siècle, c'est ce qu'on appelait la consomption dorsale. C'est-à-dire le fait d'être courbé à force d'être penché sur son pénis. Et donc, c'était, le pire, c'était la consomption dorsale.
C'est ça qu'il a, Éric Zemmour.
Bravo. On a atteint le point Zemmour au bout de 38 minutes dans ce podcast. On passe à la dernière question. Une question de culture. Lequel de ces films porno n'existe pas ? Je vais vous donner 4 titres. La doctoresse à des gros seins, Docteur Pénis Erectus, La clinique des salopes plus Infirmière en chaleur sur le même DVD, et enfin Le laboratoire à fist du Docteur Frankenfuck. Oui, Diane ?
Je vais être pour le 2.
Le 2, Docteur Pénis Erectus ?
Ouais.
Eh bien non, ils existaient tous. C'était un piège et vous êtes tombés dedans. Alors juste... pour les gens qui s'interrogent sur le laboratoire à fist du docteur Frankenfuck, je vous lis le résumé.
Ouais.
Enfin, c'est pas le résumé, c'est un peu le pitch, hein, j'ai l'impression. Bienvenue au laboratoire du docteur Frankenfuck, un repère de fister fou, où il poursuit des expériences hors normes et bien hard. Hugh Hunter joue le docteur Frankenfist dans cette fiction policière qui vous est proposée par l'esprit torturé du metteur en scène Tom Moore. Le docteur fou a créé 2 étalons musclés et il a élaboré un traitement spécial qui leur écarte le fion aux limites extrêmes et ils sont soumis afin d'être prêts à affronter le monde réel. Je pense qu'on verra très bientôt le film critiqué par Augustin Trapenard dans Le Cercle sur Canal+. Alors, on en est à combien de points, du coup, qui a gagné ce quiz ?
Ex-aequo, on en est ouais.
Oh là là, c'est beau ! Bravo !
Bravo, bravo !
Bravo ! Eh bien, c'est la fin de cette émission, j'ai le cœur qui saigne.
Attends, j'enlève ma ceinture et je te fais un garrot.
Elle a son brevet de secourisme, elle est fabuleuse. Merci beaucoup Diane Saint-Réquier, qu'on peut retrouver sur le site sexysouci.fr et aussi en vidéo sur France TV/.
Ouais. Et merci beaucoup à Alain Eril. On pourra continuer de s'intéresser à tout ce que tu as dit en lisant ton livre L'orgasme thérapeutique, publié aux éditions Grancher.
Merci à vous deux, vraiment, c'était super. Perso, cette émission m'a mis du baume au cul. Et puis merci aux auditeurs et auditrices qui ont participé au répondeur. Et à vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être mis au courant dès qu'un épisode est en ligne. Partagez cette émission et puis mettre des étoiles. Et nous taguer René, Maxime et moi si vous avez des questions ou des remarques. Salut à toutes
et à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions? Talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.